Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Anna. Bonjour.
Bonjour.
Et Sylvain.
Bonjour.
Bonjour à vous deux, vous allez bien ?
Très bien. Très bien, merci.
Temps excellent hein,
oui.
Pour l'instant. Vous êtes ici pour nous annoncer donc, le 4000e numéro du journal du Diwa, et donc avec une parution exceptionnelle hein, qui sortira en cette fin de semaine.
Le 8 août exactement.
Et pour nous, c'est peut-être de rappeler aux auditeurs cette histoire de ce journal. On peut peut-être parler de sa naissance, entre autres.
Mm-hmm. Oui, donc c'est moi un petit peu l'historienne du journal qui vais vous raconter un petit peu cette histoire. Donc ce qu'on peut dire, c'est que on a plusieurs on va dire dates à mettre en avant sur l'histoire de ce journal. Donc on pourrait fêter nos 195 ans si on prenait le premier journal en fait qui est paru et qui a succédé après au journal du Diwa, donc qui était le Mémorial de la Drôme. Donc en fait notre journal s'appuie sur un certain nombre de titres qui les ont précédés et qui appartenaient aux familles qui étaient montées monté l'imprimerie. On pourrait dire aussi qu'on a 174 ans, parce que on a le journal de Die qui s'est créé en 1851. Et le journal, du Diwa est plus récent, puisqu'il est né en novembre 1947. Et en fait, nos journaux, ils sont liés à l'implantation d'une imprimerie qui était tenue par les chevaliers qui se sont installés à Die au moment de la Révolution française, où on commence à développer un petit peu les imprimés. Et au premier tiers du 19e siècle, la ville de Die commence à avoir une activité judiciaire assez importante, et d'où la nécessité de produire ce qu'on appelait à l'époque des affiches. Donc des affiches pour publier des annonces judiciaires, à la fois des notaires, des avocats ou des tribunaux. Et donc c'est comme ça que naît le Mémorial de la Drôme, qui est créé par la famille Chevalier, donc qui avait cette imprimerie. Et la parution est assez irrégulière jusqu'en 1851. Donc on est encore à cette époque, en janvier 1851, sous la Seconde République. Et ils décident de créer un journal, alors qui n'est pas politique, parce que les journaux, même si on est sous la Seconde République, sont quand même soumis à autorisation préalable lorsque c'est des journaux politiques. Donc ils vont fonder ce qu'ils appellent un journal littéraire scientifique, et à l'époque donc est publié, outre les annonces légales, des annonces sur l'histoire de Die, sur l'histoire du Diwa, avec des feuilletons aussi. Donc ce journal en 1851, qui s'appelle le journal de Die, va exister jusqu'en 1944. Il va paraître pratiquement tout le temps, même au moment de la Première Guerre mondiale. On va avoir aussi des publications, alors plutôt centrées sur ce qui se passe sur le Diwa. Le journal en 1944, au moment de la libération, s'arrête et est repris par une équipe de résistants. Il va s'appeler le Courrier du Diwa. Donc en octobre 44, après les événements de la libération, ce journal est repris. Et l'équipe des résistants, qui est assez cosmopolite, il y a à la fois des résistants communistes, des résistants issus plutôt de l'AS, qui est le mouvement de Gaulle. Le but, c'est de faire un journal qui rassemble tout le monde, quoi. On est dans une période de reconstruction sur la guerre. Donc ils vont le mener jusqu'en 1947, au moment où les municipales commencent à Die. Et là, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé dans le journal et ils décident de s'arrêter. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que dans ce journal-là, il y a deux figures qui sont assez importantes. C'est René Courtin, qui est un résistant, donc fait partie du mouvement Combat pendant la Libération, et il fait partie aussi du groupement Général d'études, qui est une instance de réflexion qui a été montée par Jean Moulin pour réfléchir sur l'après-guerre. Et lui, il était professeur d'économie et il va s'atteler à la rédaction de cahiers autour de l'économie. René Courtin, c'est aussi un des trois fondateurs du journal Le Monde que tout le monde connaît. Et en fait, il est attaché à Die parce qu'il a épousé une dioise, Simone Coursange Courtin, qui est pendant la guerre à Die. Parmi aussi la direction à ce moment-là du journal, la direction de publication, c'est une femme qui le tient, c'est Marthe Soubéran. Marthe Soubéran, c'est une fille de pasteur qui est aussi impliquée dans la vie d'Oise. Et sa sœur, d'ailleurs, sera la première adjointe élue de la ville de Die, Madeleine Soubéran, en avril 1945. Et donc ce groupe de résistants, c'est tous les résistants qui tiennent ce journal-là, rendent à la famille Cayol en 1947. Et à ce moment-là, ça devient le journal du Diwa. Et donc là, on fête le 4000e numéro du journal du Diwa. Ce qu'on peut dire aussi dans l'histoire, c'est que ce journal, il a été très lié à l'imprimerie. Et notamment, on va dire, il y a deux lignées familiales qui ont tenu ce journal. Donc les chevaliers de 1830 à 1920. Et après 1920, donc après la Première Guerre mondiale, en fait, ça a été compliqué pour eux de conserver ce journal. Le directeur de publication, qui était Jules Chevalier, à cette époque-là, est assez âgé et il n'a pas de repreneur dans sa famille. Donc il vend le journal à deux imprimeurs qui viennent de Voiron, Alexandre Dalmé et Paulin-Philippe Janon, qui sont beaux-frères, et qui viennent s'installer à Die et qui reprennent le journal de Die. Et donc Paulin-Philippe Janon, c'est le grand-père de Cécile, qui était notre directrice jusqu'au mois de juin. Donc après la lignée donc des Paulin-Janon qui viendra les Cayol avec Augustin Cayol, puis Georges que beaucoup de Diwa ont connu, qui a repris le journal en 1966 jusqu'en 1997. Après c'est Cécile qui l'a pris, qui a assuré la direction. Et depuis le mois de juin, nous avons un nouveau directeur qui est Jean-Paul Aboninck. Jean-Paul Aboninck est le fils de Jean Aboninck, qui est une figure de la résistance du Diwa et qui a été chef de la résistance sur le Haut-Diwa.
Cette création de ces publications, notamment celle opérée par la famille Chevalier en 1830, ce sont aussi des périodes charnières hein, dans l'histoire de France. Il y a eu des périodes révolutionnaires entre 1830 et 1851. Quelle était la motivation de cette famille Chevalier donc, pour créer cet organe de presse?
Donc on a beaucoup de journaux du même type qui sont d'abord liés à une imprimerie. Il y a un moyen de fabriquer ces journaux. Et aussi à la publication des annonces légales. Donc vraiment liés à une publication d'annonces donc judiciaires ou de changements, par exemple des notaires qui vont faire des publications pour des changements de régime matrimoniaux. Ça existait déjà à l'époque. Des ventes... Donc il y a ce besoin, on commence à rentrer dans une publication où il faut qu'il y ait une connaissance de ces publications légales. Et donc c'est à ce moment-là que se développe la presse, une forme de presse locale. Il y a deux types de presse, il y a à la fois une presse politique et cette presse-là qui est locale et qui est rattachée plutôt à des on ne fait pas de politique dans ces journaux-là en fait au départ, parce qu'en fait la politique elle est soumise à censure quel que soit le régime, même si on est sur la Seconde République et a fortiori après le Second Empire, où le Second Empire les journaux sont soumis à autorisation préalable, c'est-à-dire que une fois que le journal a été réalisé il doit être passé devant un censeur qui appose un timbre pour dire si la publication peut être autorisée et être diffusée. Et les journaux politiques sont réservés, on va clairement pendant la Seconde République, on va dans le sens de Napoléon III et on doit être plutôt élogieux par rapport au gouvernement. Donc en fait le titre, le journal de Die ne va pas là quoi.
Et donc, comme vous le disiez, il y a un censeur hein, qui permettait d'accorder ou pas la publication. Quelle était l'expression propre du Diwa au travers de cette presse?
Alors en fait, au départ, donc, on a plusieurs rédacteurs. Donc le journal, il fait ce qu'on appelle un feuillet, donc ça veut dire 4 pages. Donc il y a souvent 2 voire 3 pages d'annonces légales. Et après, sur les 2 pages ou la page qui reste, c'est des commentaires scientifiques. Donc ça va être par exemple la présentation de sujets sur l'archéologie, sur l'histoire de Die, sur l'histoire du Diwa. Petit à petit, ils commencent à mettre des faits divers, mais les faits divers, c'est pas des faits divers du Diwa, c'est des faits divers nationaux. Au début du Second Empire, le journal va se saborder pendant 5 ans, en fait. Il ne va pas être publié parce qu'il va perdre son habilitation à publier des annonces légales. C'est sa principale source de revenus. Donc il n'a plus les moyens de paraître. Donc là, entre 1853 et 1858, tous les journaux du département, en fait, les journaux locaux, comme le journal de Montélimar, vont arrêter leur publication parce qu'ils n'ont plus les moyens de publier. Et l'autorité départementale a donné l'habilitation aux annonces légales à un seul journal. Dans ces journaux-là, les lecteurs qui vont s'exprimer, c'est souvent des notables. On a par exemple le docteur Jean de Linon qui a fait beaucoup de recherches archéologiques sur le Diwa. Où on est complètement dans un autre univers, quoi. Déjà, les journaux s'adressent à une certaine élite, une élite à la fois qui est concernée par ces annonces et qui veulent avoir des informations scientifiques et littéraires. Dans les années 1881, c'est une loi très importante pour la presse parce que c'est la loi sur la liberté de la presse qui est encore d'actualité aujourd'hui. Donc on commence à pouvoir dire beaucoup plus de choses. Donc déjà un petit peu auparavant, le directeur du journal qui était Émile Chevalier commence à faire une chronique locale. Donc là, on va parler de ce qui se passe, des foires. On commence à avoir quelques faits divers aussi sur des incendies, par exemple, qui se passent ou les chroniques judiciaires. On va suivre les voleurs de poules. Enfin, il y a un tribunal judiciaire à Die, donc chaque mois, le tribunal se réunit et on publie les condamnations des personnes. On va avoir les foires, par exemple, le temps, les nominations, enfin, un petit peu la vie locale à travers ce prisme-là. On a, à partir de 1885, on a une plume qui commence à écrire chaque semaine une chronique parisienne. En fait, c'est le fils d'un des fondateurs du journal, qui est bibliothécaire au ministère de l'Intérieur, et qui a une vie mondaine assez intéressante. Donc il va suivre le théâtre et il publie chaque semaine une chronique mondaine parisienne sur le journal de Die, jusque dans les années 20, quoi.
On connaît assez le nombre de parutions par numéro.
On n'a pas vraiment d'éléments là-dessus dans les archives qui nous ont été transmises, mais on peut penser que c'était 400, 500 exemplaires.
Il fut une époque où beaucoup de Français ne savaient pas lire. Comment se propageait justement ? Est-ce qu'il y avait des séances de lecture de ce journal public pour peut-être informer
On n'est pas dans un journal tel qu'on le voit aujourd'hui d'information. D'informations locales. On est dans un journal qui s'adresse plutôt, ce que j'ai dit tout à l'heure, à une élite.
À une élite, oui.
Donc les gens le recevaient comme à l'époque, comme aujourd'hui, principalement par la poste. Je ne pense pas qu'il y avait de vente au numéro. D'ailleurs, sur le premier numéro, on peut lire « On s'abonne au journal indéfiniment jusqu'à avis contraire ».
Anna, vous donc êtes journaliste depuis septembre 2024. Vous êtes arrivée... un tournant aussi de ce journal, puisqu'il y a eu une transmission avec M. Abonnac. Quel est ce journal aujourd'hui en comparaison de ce qui existait
Alors, je ne sais pas si je peux vraiment comparer, vu que ça fait que quelques mois. C'est vrai que nous, après, on a eu des discussions dans la rédaction de ce qu'on voulait aussi voir évoluer, en fait, au sein du journal. Et donc on continue à traiter l'actualité locale, parfois départementale, en fonction de si les sujets vont concerner aussi les Diwa. Enfin, en fait, on garde toujours cet ancrage Diwa qui est essentiel. Mais effectivement, on peut constater qu'aujourd'hui, il y a des choix politiques qui peuvent être faits qui vont impacter directement les territoires ruraux et donc, en fait, le Diwa, qui en est un. Et donc, c'est vrai que là, je pense sur un an, il y a eu beaucoup d'évolutions au sein du journal dans le traitement des sujets et la place accordée à certains sujets. Et en fait, c'est très important pour nous de pouvoir vraiment traiter des sujets de fond. Mais aussi de continuer à traiter toute la vie locale, en fait, et tout ce qui fait le tissu, en fait, aussi d'Iwa. Et ça, c'est très important aussi de continuer à le mettre dans le journal. C'est très attendu aussi des Diwa. Donc, quand je parle de ça, je parle de toutes les fêtes, tous les événements qui font vivre en fait le territoire.
Depuis les premières créations, il y a toujours eu ce souci pour cette presse de tenter de fédérer la population. Quand est-ce qu'elle a commencé à apparaître dans cette presse ?
On va dire, je pense que le tournant, alors on n'a pas étudié toute l'ensemble de la collection, mais pour avoir un regard, on va dire, un peu général, le tournant, c'est quand même la loi sur la liberté de la presse 1881, qui offre quand même un cadre global sur ce qu'on peut dire dans un journal. Et ce qu'on ne peut pas dire, quoi. Donc, notamment les grandes lois sur la diffamation. En fait, c'est à ce moment-là que, on va dire à la fin du 19e siècle, que le journal va commencer à parler de la politique. Donc, à travers certaines tribunes. Donc, c'est souvent la politique locale. On parle très peu d'informations nationales, à part de relever les différents gouvernements qui vont changer. On va dire les discussions vont se faire autour notamment Adi, autour de la politique locale et des élections municipales. Donc plutôt à ce moment-là, on a des périodes où l'expression elle est censurée, notamment pendant les conflits mondiaux, donc ce qui est la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, où là tous les journaux sont soumis à censure, même les journaux locaux. Donc il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. D'ailleurs, on a dans les traces de notre collection des journaux qui ont été censurés, avec lors de la publication préalable, on soumet le journal. Et puis, ce qui est diffusé, on voit qu'il y a un gros blanc. Ils ont dû demander donc au directeur du journal de retirer des articles. Souvent, alors sur le journal du Diwa, c'est pas des articles qui traitent de la guerre, c'est souvent des articles qui vont parler des soldats. Et la censure interdisait d'évoquer la position des soldats, le nombre de morts. Donc si par exemple il y a une publication pour dire que un tel est décédé, ben on n'a pas le droit parce que ça veut dire qu'on va parler des morts, quoi.
D'ailleurs, lors de ces publications, s'il y avait censure, à la place d'un article, il y avait un vide.
Oui, c'est ça, voilà.
C'est ça.
Donc on en a quelques-uns dans la collection. Bon, après, le directeur, il a dû savoir qu'il y avait des articles qu'il n'avait pas le droit de mettre et qui étaient forcément censurés. Donc voilà, on n'en a quand même pas énormément, quoi.
Justement, lors de ces conflits, est-ce que, en réaction sur cette mainmise de l'expression, est-ce que des publications clandestines ont été produites aussi par ces mêmes groupes de presse ?
Donc, c'est les journaux que j'évoquais tout à l'heure, là, sur les journaux de la Libération, donc le Diwa Libéré.
Oui.
On a une époque, donc en juin et juillet 44, le Diwa s'est libéré, mais c'est une exception sur certains territoires de France. Après, on va de nouveau avoir une occupation de l'armée allemande qui va d'ailleurs être très difficile sur le Adi particulièrement et sur le Diwa en juillet et août 44. Donc c'est à ce moment-là, entre le 6 juin et l'arrivée des Allemands dans le Diwa, qu'on trouve ces publications clandestines.
Vous en avez certainement
oui, on a les uns dans notre collection.
Une grande collection. Ça nécessite énormément de place.
Une armoire entière.
Ah, juste une armoire. Je pensais que c'était pour vous.
Mais une très très grande armoire, oui.
Oui. Oui.
Alors en fait, le journal, c'est 52 publications. On est un hebdomadaire, donc c'est 52 publications par an jusque dans les années 36. En 1936, il y a la loi sur les congés obligatoires. Donc le journal prend une semaine de congés par an. Et après, on va tomber... aujourd'hui, on publie 50 numéros par an. Donc ça tient effectivement dans une armoire. Et d'ailleurs, dans notre numéro 4000, les lecteurs pourront lire un article d'Éric Dordilly qui a consulté cette armoire et qui donne ses impressions sur la collection de notre journal.
Au départ, vous disiez que c'était une feuille, une quattro, on peut dire.
On appelle ça un feuillet.
Un feuillet.
Un feuillet, donc, c'est 4 pages.
Oui, c'est ça. Et l'évolution aussi de cette presse, de cette parution, s'est-elle, étoffée. Avec des, peut-être des périodes, oui. De grandes périodes et peut-être des récessions.
Donc le journal a toujours été lié à l'imprimerie, donc que ce soit l'imprimerie Chevalier jusque dans les années 20, puis après l'imprimerie Janon et Cayolle à partir des années 20. Et donc a suivi les révolutions techniques de l'imprimerie. Donc au départ, on imprimait sur une presse à bras. Donc effectivement, on n'imprimait pas beaucoup de nouvelles, puis le papier était cher. On commence à la vraie révolution dans l'imprimerie, c'est la révolution de la PAO et de l'offset, où on peut imprimer de plus grands tirages. Donc le journal, à partir donc c'est une révolution nous qui vont nous concerner dans les années fin des années 70, début des années 80. Donc là le journal va passer de 8 pages à 12 pages, après 16 pages. Donc depuis le Covid, on est redescendu à 12 pages, mais on a l'intention de pouvoir remonter la pagination. On a aussi dans ces révolutions l'impression numérique, qui nous a aussi permis de conserver pendant très longtemps l'impression en interne du journal. Alors, ce qui n'est plus le cas depuis le printemps, où on a dû externaliser aussi pour des questions de financement et de maintien du journal. Mais donc, voilà quoi. Le journal s'est étoffé pendant le temps. On va dire qu'à partir des années 30, on commence à imprimer 2000 journaux. Donc, sous l'impulsion d'Augustin Cayolle, le journal commence à prendre une dimension plus importante. Et après, avec Georges Cayolle, à partir des années 60, là, le journal se développe et lui développe aussi l'imprimerie qui permet aussi de développer le journal derrière.
Anna, vous êtes récente hein, dans cette entreprise. Est-ce que vous avez pris le temps aussi peut-être d'opérer une sorte de rétrospective hein, de cette presse locale ? Est-ce que vous y avez vu une évolution ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours une continuité de développement ou d'expression ?
Alors j'ai pu consulter un peu les archives. Après j'avoue que j'ai pas lu l'ensemble, enfin vraiment, j'ai pas fait une rétrospective totale de tous les numéros, mais oui j'ai pu regarder un peu. Après moi ce que je trouve vraiment intéressant dans ce journal, c'est que il y a toujours eu une grande qualité aussi dans l'écriture, ce qui est pas le cas de tout, enfin toute la presse et voilà. En dehors de ça, il y a vraiment eu toujours comment dire, ça tenait à cœur vraiment aux rédacteurs et puis enfin, aux personnes qui menaient le journal de vraiment voilà, proposer des informations intéressantes et fiables en fait, aux lecteurs. Après oui, forcément il y a eu une évolution en termes du nombre de pages qui ont pu augmenter à une période puis qui sont redescendues. Enfin, là nous aujourd'hui on est à 12 pages. Après, c'est toujours lié aux moyens qui sont disponibles. Nous, pour l'instant, on tient bien comme ça. mais c'est sûr qu'il y a eu une évolution importante là sur les dernières années. Oui, c'est clair.
Je voulais rajouter, nous sommes quoi, le journal du Diwa et ses prédécesseurs ont toujours été des journaux indépendants. Donc, c'est des journaux qui ont fonctionné avec... on n'a pas d'aide à la presse, on fonctionne donc avec la vente au numéro, avec la vente de nos abonnés, les publicités et les annonces légales. Aujourd'hui, nous sommes une équipe de 4 salariés. La rédaction de 2 salariés, Anna et moi-même, et Clément qui est à la mise en page, qui réalise toute la mise en page du journal, et Valentine qui a un poste multiple, qui s'occupe à la fois de l'accueil, de la gestion des abonnés, de la facturation, plus donc notre directeur Jean-Paul Aboninck et Cécile Cayolle qui est encore actionnaire dans l'entreprise. Donc nous sommes une petite équipe et on peut voir que le poids de la rédaction il est énorme dans cette petite équipe. Donc on est 2 salariés un peu moins de 2 équivalents temps plein. Mais il nous permet aussi de couvrir une large part. On travaille aussi avec des bénévoles qui correspondent en locaux de presse, qui nous donnent des papiers. On lance aussi un appel parce qu'on recherche aussi à renforcer cette équipe des correspondants de presse.
Oui. Sur des zones particulières ?
Alors, sur l'ensemble du Diwa, en fait. Le journal couvre, on va dire, depuis la fin du 19e siècle, on est sur... Au départ, on était le journal de l'arrondissement de Die. Là, on va être centré plutôt sur le canton du Diwa, donc de Saillant à Luz-la-Croix-Haute, en passant par la Motte-Chalancon, et une petite partie du Vercors Sud avec Vassieux en Vercors. via les liens historiques qui nous rattachent à cette commune. En fait, nous, au niveau de la rédaction, on va couvrir des reportages, on va couvrir à la fois ce que vous expliquez, Anna, tout à l'heure, sur les fêtes locales, sur la politique, sur la vie économique. Et on essaye aussi d'offrir une diversité à nos lecteurs, à la fois sur les articles et essayer d'apporter aussi de plus en plus d'articles de fond. Quoi.
Je reviens un peu sur cet aspect du journal. On parlait de feuillets. Les pages étaient de quelle dimension ?
Au départ, on est sur un format un peu plus grand. Tout au long de notre histoire, on a eu des évolutions du format. Le format, en fait, c'est vraiment lié à l'impression. Donc, c'est la capacité technique de la machine. Donc, au départ, c'était les presses, ce que j'expliquais tout à l'heure sur les presses à bras. Donc, c'est les dimensions. Donc, ça fait à peu près, je pense, on doit être du 40-60. Après, on est passé sur des formats un peu plus petits. Et puis, par exemple, pendant les conflits, l'approvisionnement en papier, c'est très compliqué. Donc, les journaux ont des restrictions par rapport à la consommation du papier. Donc là, on va redescendre dans la pagination. Alors, le DIWA avait la chance d'avoir une papeterie à proximité qui se situait à Oust. Et donc, aller chercher son papier, il pouvait aller... même pendant la Première Guerre mondiale, aller chercher son papier en charrette à Oust. Quoi. Après, on est redescendu sur des formats plus tabloïdes, on va dire jusque dans les années 2000. Et en 2010, on a dû redescendre le format du journal pour des questions, parce qu'on avait réinternalisé l'impression. Et la machine, en fait, nous permettait, pour pouvoir être autonome, il fallait qu'on redescende sur le papier, quoi. Et maintenant, on est repassé à un format tabloïd, qui était le format, en fait, original du journal. Et sur ce format-là, c'est aussi parce qu'on a changé de machine pour imprimer et qu'on imprime sur une rotative. Et on a aussi changé la qualité du papier, quoi.
Il y a eu l'évolution de cette presse aussi, hein, au niveau de l'impression. On est passé de la typographie à l'offset. Et aujourd'hui, on est sur quel type d'impression ?
Donc aujourd'hui, on imprime en numérique. On va dire depuis les années 2010. Quand l'impression est revenue en interne dans les années 2000-2010 au journal, on imprimait en numérique et c'est vrai que la qualité du numérique et la qualité de cette impression nous permettait aussi de passer au numérique. Et aujourd'hui, on est sur des rotatives numériques et avec aussi une qualité d'impression qui est importante. Même si on a dû redescendre sur le choix du papier, c'est vrai jusque-là habitué nos lecteurs avec un papier de qualité. Et à l'heure actuelle, le nerf de la guerre dans la presse, c'est quand même le coût du papier, quoi. Donc on a dû redescendre sur un papier... Qui est plus fin.
Et d'ailleurs, on peut le remarquer, hein, lors de ces occupations, pendant les conflits, la qualité du papier était évidente. Il jaunissait rapidement, se désagrégeait même rapidement. Il y a aussi un autre aspect, c'est l'illustration. A-t-elle toujours existé dans le journal ou alors est-ce qu'elle s'est immiscée progressivement ?
Non, on a... l'illustration a été très peu présente. On a quelques illustrations au début du XXe siècle avec des photos, notamment des équipes sportives, mais c'est assez rare. Après, on va avoir des photos de personnalités publiques qui vont apparaître ça et là. Et on va dire que l'illustration s'est vraiment développée avec la PAO dans les années 80. Lorsque c'est aussi beaucoup plus simple de techniquement d'arriver et d'imprimer en fait des photos. On est aussi passé au numérique sur la photo à partir des années 2000 et à l'heure actuelle sur notre dernière maquette qui nous a été proposée en début d'année. On est passé aussi tout en couleur, ce qui était la couleur, elle commence à arriver fin des années 80 avec l'offset et là elle s'est vraiment voilà toutes nos pages sont en couleur aussi maintenant et illustrées. On a aussi beaucoup d'illustrations, beaucoup plus que ce qu'on avait avant, quoi. C'est aussi une demande du lectorat.
Et je pense que c'est aussi important de rajouter, là, sur le journal actuel, donc c'est Clément qui est notre graphiste, maquettiste, qui s'occupe aussi de la mise en page, etc., qui fait tout un travail qui a fait tout un travail sur cette nouvelle maquette. Et où aussi là, on réfléchit de plus en plus sur les papiers. Il y a le contenu rédactionnel, mais il y a aussi un travail de mise en avant de certaines parties du contenu, de date. C'est quelque chose à terme. Si on peut faire en sorte que ce soit plus régulier, on souhaiterait le faire. Mais c'est important de souligner aussi que c'est un travail qui est important dans la presse, que d'arriver à mettre en avant certaines informations. Le travail du graphiste maquettiste, il est essentiel aussi pour ça.
Oui, et ce que je disais tout à l'heure, on est vraiment une équipe pour travailler sur ce journal. Et donc c'est important, dès la gestion des abonnés, à la mise en page et à la vente des numéros, avec par exemple nos partenaires qui vendent les journaux dans les boutiques de presse. Sans eux, le journal ne se vend pas. Sans les postiers, les facteurs, le journal n'est pas distribué. Donc c'est... Le journal, c'est pas que la rédaction, c'est aussi toute une équipe derrière, une équipe technique et les partenaires aussi qui l'accompagnent.
À l'heure actuelle, il y a donc ces publications hebdomadaires. Vous parliez donc de sa distribution dans les papeteries ou les marchands de presse. Est-ce qu'il y a une répartition aussi de cette livraison dans les divers villages du Haut-Diwa notamment?
Oui, il y a plusieurs... c'est réparti.
Les points de vente.
Alors, j'ai pas techniquement tous les lieux, mais il y a certains villages, effectivement, dans lesquels le journal est distribué, plus la distribution globale de tous les abonnés. Donc, ce qui couvre un territoire qui est quand même assez large et important. On a même des abonnés aussi qui sont hors territoire d'Iwa. Donc, c'est quand même un journal qui est très, très demandé.
Très lu, oui. On est présent dans tous les bureaux de presse de Die, de Châtillon, de Luc, de Saillant et un peu plus loin sur Cré. Après, on a beaucoup, les lecteurs plus éloignés, c'est l'abonnement. Pour l'anecdote, sur nos lointains, lecteurs, on peut dire que notre collection est partie dans les flammes du World Trade Center, puisqu'on avait un abonné qui était aux États-Unis quand les tours sont tombées. Heureusement, lui, il s'en est sorti. Et il était abonné. Donc, chaque semaine, on avait une petite pensée pour lui, qui recevait son journal. En fait, c'était quelqu'un dont la famille était originaire du Diwa et qui voulait conserver le lien avec le Diwa. On a aussi beaucoup de résidents secondaires qui sont natifs du Diwa, qui veulent conserver un lien avec le territoire. Et notamment quand ils reviennent sur le territoire, savoir ce qui se passe. Et donc, ils continuent à s'abonner aussi au journal. On a à la fois un lien de proximité aussi sur les nouveaux arrivants qui arrivent. Quand ils veulent découvrir leur territoire, ils s'abonnent au journal du Diwa ou ils vont acheter le journal du Diwa, quoi, pour connaître un peu mieux notre territoire.
Pour le moment, vous êtes un organe de presse imprimé. Est-ce qu'il y a une réflexion sur... la présentation numérique?
Oui, il y a une réflexion sur... rien n'est fait pour l'instant, mais en tout cas sur le fait d'avoir potentiellement un site web plus développé avec des articles qui seraient publiés directement en ligne. On sait aujourd'hui que c'est un gros enjeu aussi par rapport au fait de toucher un autre public, ou en tout cas un nouveau public, plus jeune. Donc ça sera potentiellement quelque chose à mettre en place sur du long terme, mais oui, c'est en tout cas une volonté plutôt commune, je pense. Oui. Au sein de l'équipe.
J'ai vu récemment un article de presse dans un journal où il était notifié que cet article était rédigé par une intelligence artificielle. Je pense qu'il y a une obligation de citer la provenance de l'article. Est-ce que comment vous voyez-vous justement cet avènement de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elle aurait peut-être prise sur vos publications?
Alors nous, on n'utilise pas d'intelligence artificielle, je pense que c'est important de le dire.
Même pour nos illustrations, on n'a pas encore on a pas franchi le pas.
C'est assez laid. Hein.
Après, je pense qu'on voit l'évolution, on ne sait pas, quoi. Pour l'instant, on ne s'y est pas mis. En tout cas, pour l'écriture, c'est vrai que des fois, ça nous fait rigoler quand on voit certains articles qui sont écrits... C'est souvent sur des sujets... Quoi, l'intelligence artificielle, elle est aussi alimentée par ce qui est écrit sur l'extérieur. Et donc, elle n'a pas forcément de prisme sur le local. Donc, pour l'instant, ce n'est pas un outil d'accompagnement non plus pour nous, pour la rédaction. Donc voilà, quoi. Après, l'évolution... On a vu que toutes les évolutions des techniques, elles avaient touché notre univers et notre métier. Donc... pas dire.
Après, c'est vrai que ça reste limité, ouais. Enfin, comme le dit Sylvaine, notamment sur tout ce qui est vérification de l'information, où en fait les intelligences artificielles peuvent potentiellement faire des articles peut-être un peu généralistes, mais sur des sujets très locaux, très techniques, voilà, ou sensibles, en fait, elles n'ont absolument pas de prise sur ça. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas très inquiète, ouais. Voilà, pour l'instant, mais.
Ce journal du Diwa s'adresse aux habitants. Est-ce qu'il y a aussi une réciprocité de prise en compte de leur avis dans ce qui est rédigé ou proposé dans ce journal ?
Oui, bah là, justement, dans ce numéro 4000, voilà, on fait un petit retour, parce que justement, on avait donc fait un questionnaire pour connaître un peu voilà, les avis des abonnés sur... éventuellement quel type d'article ils voudraient voir voilà, plus régulièrement, les types de sujets traités, etc. Donc on a eu plein de réponses différentes. Donc on va faire un retour un peu sur ça.
Est-ce qu'il y a justement des suggestions opérées par les lecteurs ou un public
Oui, alors moi de ce que je me souviens des suggestions, c'était aussi des sujets sur l'histoire du Diwa, sur l'archéologie aussi il me semble, des sujets sur la faune et la flore. Là, c'est ce qui me vient en tête là maintenant, tout de suite, c'est ça. Après, je ne sais plus si tu avais des.
On a régulièrement, parce qu'on est quand même en proximité, on couvre la proximité, donc en tant que notamment donc les deux journalistes, on a régulièrement des retours de nos lecteurs. Quand on écrit un journal, on sort du journal, on traverse la rue et on va rencontrer le lectorat. Donc. On a régulièrement des retours sur nos articles, sur ce qu'on a écrit, sur ce que les gens aiment pas, nous voudraient qu'on écrive, nous trouvent qu'on n'est pas assez indépendant, qu'on est trop indépendant, qu'on devrait plutôt alimenter leur réflexion. Donc ça, c'est la vie locale, donc ça, c'est normal, en fait. Qu'est-ce qu'il y aura de particulier dans ce numéro 4000? Parce que Anna, elle a fait un sujet intéressant sur qui habite le Diwa.
Je parlais de cette mission que vous avez à deux de produire hein, ce texte qu'on peut lire chaque semaine. Ça vous implique aussi à circuler énormément dans le Diwa. Et pour cela...
Quand on prend nos vacances hors du Diwa.
Oui. Oui, sachant que moi j'habite hors Diwa déjà justement pour garder un peu de distance, mais c'est vrai que je pense que c'est une... En fait on a un peu une position d'équilibriste à jouer quand on est journaliste de proximité, c'est à la fois conserver des liens et un réseau quand même qui est fort et qui est important avec l'ensemble en fait du territoire, et en même temps arriver à se mettre suffisamment à distance pour pouvoir bien traiter les sujets, comme on l'évoquait, de façon indépendante et impartiale. Et quand on dit impartiale, c'est aussi voilà, avoir une diversité en fait, d'avis, de points de vue. Et donc ça, ouais, c'est très, très important. Quoi.
Nos colonnes sont aussi ouvertes à des tribunes, donc même si on cadre... Pas sur le fond, la tribune, mais sur la forme. Parce que souvent, on en a beaucoup. On dit aux gens, vous pouvez vous limiter, quoi, c'est 3000 signes. Mais régulièrement, on a des personnes qui sont impliquées dans la vie publique qui vont passer une tribune, un coup de gueule. Ou alors, ils sont contents de ce qui s'est passé. Ils vont le lire aussi dans nos colonnes, quoi.
Il y a cette notion d'indépendance. Hein, et justement, vous parlez de cette accaparation par des grands groupes du marché du papier. Est-ce que cela impacte aussi votre publication?
Les grands groupes,
c'est-à-dire
les actionnaires en
oui,
ce qui concerne le papier.
On peut penser à la Maison Bolloré, qui a énormément de papeterie. Est-ce qu'ils font la pluie, le beau temps sur
nous, on est
la
un
presse
journal,
locale
Non, mais nous, on est un journal indépendant. Notre économie, c'est nos lecteurs, c'est nos abonnés, c'est la vente des publicités. On n'a pas Après, on a deux actionnaires qui sont Jean-Paul Aboninck et Cécile Cayol. C'est pas l'Empire Bolloré. Donc, c'est deux personnes privées qui n'ont pas d'autres groupes de presse. Et on est complètement indépendant de tout groupe de presse. On est un journal local indépendant.
Je ne parlais pas de cette notion d'édition, hein, d'éditorial, mais plutôt des moyens matériels, hein, du papier. Est-ce qu'il y a une pression opérée sur des petits journaux locaux tels que le journal du Diois ?
Alors nous, on est imprimé par un imprimeur qui est spécialisé dans la presse locale, donc qui a une assise assez importante et qui imprime beaucoup de journaux locaux tels que le nôtre. Donc pour l'instant, on n'est pas quoi. Voilà, lui c'est un acteur important, mais qui est vraiment très spécialisé dans cette presse locale. Quand on imprimait le journal en direct, effectivement pour nous ça a été compliqué. C'était surtout le coût du papier, mais pas forcément par les groupes que tu évoques. C'est plutôt après le Covid, beaucoup de gens se sont mis à commander sur Internet et les papeteries en France ont disparu. Et où se sont spécialisés dans la fabrication de carton pour emballer ce que les gens commandent sur Internet. Et donc le coût du papier a explosé. Et les papiers de presse, c'était plus forcément une priorité. Donc c'est plutôt ça la difficulté dans la presse, c'est l'approvisionnement du papier. Et souvent, il faut, quoi, nous à l'époque quand on imprimait, on commandait le papier 6 mois à l'avance. Pour avoir, et on commandait des tonnes de papier pour avoir des coûts suffisamment bas. Pour une petite entreprise indépendante comme la nôtre, c'est très compliqué, très 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 compliqué. Et la personne qui est maintenant partie à la retraite qui s'en occupait de la gestion du papier, c'était une gestion qui était primordiale pour nous, quoi. Sans papier, on n'imprimait pas notre journal, quoi.
Numéro 4000, pour vous, comment voyez-vous l'avenir du journal du Diois?
L'avenir du journal du Diois, j'espère qu'il sera long et que le journal va durer encore longtemps, surtout qu'on va espérons en tout cas qu'il puisse développer et qu'on puisse continuer à faire ce travail-là. Mais je crois que c'est important de dire que là, ce numéro-là, le 4000, donc c'est un 20 pages, qui comprend donc tout ce dossier historique sur le journal, donc de 4 pages intérieures. Et donc il y a un dossier qui se nomme « Qui habite le Diois ?». Donc ça a été j'ai interviewé une chercheuse qui s'appelle Yeva Snickers-Proge, qui est une anthropologue lettonne qui aujourd'hui vit donc dans le Diois, et qui avait mené un projet de recherche en fait sur l'économie post-croissance dans le Diois. Et notamment une étude, elle a mené une étude en fait par le biais d'un questionnaire auprès de Diois en posant toute une série de questions sur leurs habitudes, leurs pratiques, leur mode de vie. Et donc voilà, c'est une sorte de synthèse en fait de son travail dans ces doubles pages. Et l'idée, c'était vraiment aussi de parler des transformations au sein du territoire. Que les territoires ruraux aussi connaissent depuis plusieurs années, et notamment le Diois. On sait aussi que dans le Crétois aussi, il y a des grandes transformations avec des arrivées de populations, nouvelles qui viennent des villes d'ailleurs, etc. Et l'idée, c'est de l'interroger sur tout un panel de son travail. Et donc ça a été un numéro sur lequel on a vraiment beaucoup travaillé, toute l'équipe. C'est un travail qui a commencé, je pense, il y a au moins 2 mois. Enfin, en tout cas, entre le moment où on a eu l'idée et là, la sortie du numéro qui est le 8 août, ça a été vraiment une très très grosse implication. Et comme je disais, avec l'implication de vraiment toute l'équipe, tant de la rédaction que Valentine et Clément, et aussi de notre direction, pour avoir ce numéro un peu de l'été qui sera donc disponible dans les kiosques jusqu'au 25 août. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir intéresser et nos lecteurs et nos abonnés, éventuellement des gens qui seraient de passage et qui auraient envie d'en savoir plus, tant sur l'histoire du journal que les habitants et habitantes du Diois.
Quelle est la part du lecteur aussi dans cette publication? Est-ce qu'il y a donc ces courriers hein, parfois, aussi des expressions, des coups de gueule parfois également? Est-ce qu'il y a des propositions ou peut-être des lecteurs qui pourraient proposer des articles ou des, comment on appelle ça, des chroniques hebdomadaires?
Oui, bah après, il faut qu'on en discute. Oui. C'est-à-dire, le mieux, c'est de nous contacter, de nous parler en fait, et de nous dire précisément quelle est l'idée, le projet, j'allais dire, de publication. Et en fait, après, c'est on se rencontre et on en parle ensemble et on voit ce qui est possible ou non. Notamment aussi de voir voilà, s'il s'agit de contenus, dans le cas où c'est des contenus qui sont politiques, par exemple, sachant que là, on arrive au moment des élections municipales prochainement. Ça nécessite pour nous de mettre un cadre qui est plus clair. Mais évidemment, s'il y a des personnes qui souhaitent écrire dans le journal, c'est possible. Mais il faut qu'on en discute ensemble avant et qu'on pose un cadre.
D'ailleurs, à l'approche de ces élections municipales, est-ce que vous êtes tenu de donner en quelque sorte une égalité de parole à toutes les tendances d'expression?
Alors, nous, dans la presse écrite, on n'est pas soumis comme la presse audiovisuelle ou télévisuelle. Donc on n'a pas les mêmes règles. Par contre, traditionnellement, dans le journal du Diois, notamment, alors plutôt spécifiquement, on va dire pour la ville de Die, c'est là où il y a le plus de débats politiques, on pose un cadre, on va dire, un petit peu avant l'élection, on donne la parole à tout le monde et on essaye de leur donner à peu près le même... On leur donne le nombre de signes, Et à la fin, sur le journal qui précède les élections, on leur pose une série de questions sur l'actualité ou sur les grands sujets qui vont traverser la campagne. Et chacun doit répondre à ces questions. On le fait aussi pour les élections nationales, où on pose à peu près, on va pas rouler plus pour un candidat que pour un autre, et on essaye de donner la parole à tout le monde. Et de le cadrer et tout ça. Mais on pourrait très bien... Nous, on n'est pas soumis à ces interdictions et on pourrait très bien rouler pour un ou des candidats ou une équipe. Il y a des journaux d'opinion dans notre pays. L'Humanité est complètement différent du Figaro, quoi.
Je vous remercie Anna et Sylvaine d'être venues à Air du Diois pour nous parler donc de cette publication du 4000e numéro du journal de Diois.
Merci pour l'accueil.
Merci pour l'accueil.
Merci aussi.